un réel bonheur d'être avec vous pour partager encore cet après-midi la parole de Dieu et sa présence pour nos vies. J'aimerais poursuivre cet après-midi sur le thème de cette mission, à savoir Dieu, nous et les épreuves de la vie. Je voudrais introduire cet après-midi cette prédication en lisant un court texte dans le livre des psaumes. C'est au psaume 74, je lis au verset 16 et 17, où Asaph, inspiré par le Saint-Esprit, dit à Dieu, « À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. » La parole du Seigneur nous enseigne donc ici que tous les phénomènes de la nature qui nous entourent dépendent de la puissance souveraine de Dieu. La nature ne fait pas et n'agit pas comme bon lui semble. Dieu a le contrôle de tout. Le texte que nous venons de lire est très clair là-dessus. Il est dit « Tu as créé la lumière et le soleil ». Et vous remarquez la régularité avec laquelle se succèdent le jour et la nuit. Nous avons eu quelques heures de repos cette nuit, nous nous sommes levés ce matin, il fait jour, et avouons-le, pour chacun de nous, nous n'y sommes absolument pour rien. Il fait jour, un point c'est tout. Dans quelques heures, ce sera la nuit, pour nous, ici en France, le soleil va se coucher, comme on dit, il y aura la nuit pendant un certain nombre d'heures, et nous n'y serons absolument pour rien. Aucun être humain n'a de pouvoir là-dessus. Dieu a le contrôle de tout. La clarté des étoiles, la lumière du jour, sont en son pouvoir. La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu, que c'est lui qui a établi l'été et l'hiver. Et le thème de ma prédication cet après-midi, c'est que le jour et la nuit sont à Dieu. Le jour et la nuit sont à Dieu. Alors il y a d'autres textes de la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu a le contrôle de tout, mais il a le contrôle de tout dans d'autres domaines, pas seulement dans celui de la nature. Je lis pour vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35. Vous connaissez ce texte, c'est un rappel. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Et vous allez voir une avalanche de nuit. « Sera-ce la tribulation ?» Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et vous savez pourquoi ? Parce que la nuit est à Dieu. Il a le contrôle de nos jours, mais il a aussi le contrôle de nos nuits morales et spirituelles. Et Paul ajoute, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ça c'est la nuit, ni la vie, ça c'est le jour, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, on peut dire que c'est le jour, ni la profondeur, ça c'est la nuit, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la première piqûre de vitamine pour cet après-midi. Et je peux me dire avec bonheur, Dieu a le contrôle de tout dans ma vie. Que ce soit un temps facile, le jour, que ce soit un temps difficile, la nuit comme le jour, sont à Dieu. Jésus a manifesté l'amour de Dieu pour ma vie. En Jésus, il y a tout l'amour de Dieu pour moi et rien, rien, ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il faut que cet après-midi, nous puisions en cela notre joie, notre sécurité, notre consolation. Quel est l'enseignement spirituel de cette pensée ? C'est que chacun de nous cet après-midi est appelé à compter sur la fidélité de Dieu dans sa grâce. Le Seigneur est prêt à éclairer tes jours, mais le Seigneur est tout à fait disposé à éclairer tes nuits. Et il veut le faire avec équilibre. Je viendrai sur ce texte d'Ésaïe beaucoup plus tard dans la prédication, mais il est dit dans la parole de Dieu, il donne la prospérité, ça c'est le jour. Et il permet aussi l'adversité, ça c'est la nuit. Dans ce texte du psaume 74, j'ai lu, tu as établi l'été. Ça on aime. Ce sont les temps de chaleur dans notre vie spirituelle. Les temps de bénédiction, les temps de révélation, les temps de communion, les temps de fruits spirituels, les succès, les victoires. Mais le Seigneur a aussi établi l'hiver. Ça, on aime moins. Mais le Seigneur triomphe dans nos hivers. Vous comprendrez derrière l'image ce que nous pouvons y mettre, le temps des grands froids, le temps de la morsure, des vents froids, le temps de la neige, le temps de la glace. Et dans ces temps-là dans ta vie, Dieu garde son alliance envers toi en Jésus-Christ et il est disposé à réchauffer ton cœur. J'aimerais vous parler de deux hommes qui sont passés de l'hiver à l'été. Ils étaient en train de tourner le dos à Jérusalem et ils s'en allaient vers un petit village qui s'appelait Emmaüs. Et dans leur cœur, c'était l'hiver, c'était le froid. Parce qu'ils vivaient un christianisme 3 jours en retard. Dieu avait déjà mis sa pendule à l'heure de la résurrection, mais eux étaient restés 3 jours en retard à l'heure de la crucifixion et de la mise au tombeau. Jésus avait pourtant annoncé que le Fils de l'homme devait donner sa vie en sacrifice et que 3 jours après il ressusciterait, mais ça, ils ne le croyaient pas. Ils espéraient un royaume terrestre auquel eux participeraient. Ils attendaient un Messie régnant qui mettrait les armées romaines dehors et qui allait établir un règne glorieux. Et là, leur espérance messianique s'effondre. Voilà que leur Messie meurt misérablement comme un maudit sur une croix et est déposé dans un sépulcre. Alors l'hiver s'installe dans leur cœur. Parce que toutes leurs espérances s'effondrent. Ils l'ont donc suivi 3 ans et demi pour rien. Ils se sont attachés à lui pour rien. Ils ont mis en lui leur espérance pour rien. Il a fini comme un maudit sur une croix. Alors ils s'en vont, ce dimanche soir de la résurrection, vers Emmaüs, le froid dans le cœur. Et tandis qu'ils cheminent vers Emmaüs, en chemin, ils s'entretiennent de tout ce qui s'est passé. Et quand quelqu'un qui n'a pas le moral parle avec quelqu'un qui n'a pas le moral, je crois que vous m'avez compris, le résultat, c'est qu'ils n'ont pas le moral. Au point que, pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, quelqu'un arrive, s'approche et fait route avec eux. C'est Jésus. Jésus qui ne nous abandonne pas quand nous sommes au creux de la vague. Jésus qui ne nous rejette pas quand nous sommes dans nos nuits. Bien sûr qu'ils auraient dû croire. Bien sûr qu'ils devraient être à l'heure de la joie. Bien sûr qu'ils devraient être à l'heure de l'été de Dieu. Mais le Seigneur va faire avec. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans leur nuit que le Seigneur va les rejeter. Jésus va venir les chercher là où ils sont. Alors Jésus s'approche et fait route avec eux. Mais vous savez, nos hivers sont tels que parfois il est là près de nous et on ne le voit même pas. On ne le sent même pas. Alors Jésus va commencer sa thérapie spirituelle. De quoi est-ce que vous parlez ? Vous avez l'air tellement triste. Alors l'un des deux, qui s'appelle Cléopas, lui dit, mais tu ne serais pas le seul par hasard, j'aime bien ça, tu n'es pas le seul par hasard qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé. Ah, s'il y en a un qui le savait, c'était bien lui, hein ? Et Jésus ne peut pas mentir. Et puis il n'a pas l'intention de dévoiler tout de suite. Et j'aime la façon dont Jésus sait parler. Quoi ? Quoi ? Leur dit-il. Et en leur posant cette question, il va les obliger à vider leur cœur. Et c'est bien que dans nos hivers, nous laissions Jésus s'approcher de nous pour exercer encore une fois cette thérapie divine pour nous amener à vider nos cœurs. Ça, c'est une première chose importante. Ils lui répondent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth ? Enfin, c'était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Et on sait comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et là, ils arrivent à, excusez-moi l'expression, hein, ils arrivent à accoucher de leur vrai problème. Nous espérions. Et quand ils disent ça, ils sont en train de se vider de leur désespoir. Et c'est là où Jésus voulait les amener. Se vider de leur hiver. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, c'est le troisième jour que ces choses se sont passées. Alors il est vrai que quelques femmes, c'est pas très flatteur pour vous mes sœurs, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Effectivement, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous avez entendu, ben, les femmes, on ne sait pas trop ce qu'elles ont raconté finalement, hein, parce qu'elles ne l'ont pas vu. Mais je vais me rattraper, mes sœurs. Celles qui sont allées au sépulcre avant les hommes, ce sont les femmes. Et si le Seigneur est apparu une première fois à quelqu'un, c'est à une femme. Ouais. Mais cela dit, lui, ils ne l'ont pas vu. Et après les avoir amenés à parler de leur hiver, Jésus va commencer la guérison. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, mais ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrera dans sa gloire ? Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Une étude biblique. Et on ne fait pas une étude biblique sans Bible. Moi, j'admire les hommes aujourd'hui qui arrivent devant les estrades comme ça et qui n'ouvrent même plus la Bible. Mais on ne peut pas prêcher la Bible sans la Bible. Alors Jésus a pris dans son cœur, il ne l'avait pas dans les mains, mais il a pris la parole de Dieu, ce qu'il y avait à l'époque. Pas le Nouveau Testament, il n'était pas écrit, mais l'Ancien. Et on peut prêcher l'Évangile avec l'Ancien Testament. Parce que l'Évangile est en gestation dans l'Ancien Testament. Alors il a pris la Torah, ce qu'on appelle le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, il a pris les prophètes, Et puis il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Allez, 60 stades, Jérusalem-Emmaüs, 11 ou 12 kilomètres, au rythme de marche tranquille, une petite étude de 2h30, étude biblique de 2h30. Puis il leur parle de ce qui le concerne, parce que la vraie lecture que nous sommes appelés à faire, c'est une parenthèse, la vraie lecture que nous sommes appelés à faire de l'Ancien Testament, c'est d'y trouver Jésus. En tout cas, moi, je sais que c'est la lecture que Jésus en faisait. Il allait chercher dans l'Ancien Testament ce qui le concernait. Et pendant qu'il leur parle, pendant qu'il fait cette petite étude biblique à trois, mais n'a-t-il pas dit là où deux ou trois sont assemblés? C'est la plus petite assemblée qu'il puisse exister, deux, plus Jésus. Là, ça a été formidable. Il leur a expliqué dans les Écritures ce qui le concernait. Et quelque chose est en train de se passer dans leur cœur, je vous en parlerai dans quelques secondes. Finalement, on arrive au village, près de l'auberge, pour manger un morceau. Et puis, ils disent, écoute, reste avec nous. Ils ne l'ont pas reconnu, mais cet étranger-là leur fait du bien. Reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin. Alors quand on invite Jésus, il ne se fait pas prier, il reste. Alors on entre dans l'auberge, on se met à table et il prend le pain. Les mêmes mains qu'hier soir. Les mêmes mains qu'hier soir. Il mit sa main sur moi le soir. C'est un autre soir, c'est le même Jésus, ce sont les mêmes mains. C'est curieux, c'est lui qui prend l'initiative, il prend le pain, il le rompt et il le leur donne. Mais ils ont vu ça déjà deux fois, trois fois. Dans la première multiplication des pains, la main de Dieu sur le soir de nos besoins, la seconde multiplication des pains, les mains sur le soir de nos besoins, à l'institution de la scène, la main de Dieu sur le soir de notre condamnation pour que nous ayons la rédemption. Il rompt le pain, symbole de son corps. Et là, ce sont les mains du ressuscité. Et ça, d'un seul coup, ça déclenche quelque chose. Mais oui, ce sont ses mains. On a déjà vu ça. Et ils le reconnaissent, leurs yeux s'ouvrent. Ils n'étaient pas aveugles. C'est les yeux de leur entendement qui s'ouvrent. Ce sont les yeux de leur cœur. Ce sont les yeux de la foi. Ils le reconnaissent. Et là, ils n'ont plus besoin de lui, il disparaît. Et aussitôt, ils font le constat qu'ils sont passés de l'hiver à l'été. Parce qu'ils disent notre cœur. Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Je crois que le but de la parole de Dieu, le but de la prédication, le but de nos réunions, c'est qu'à chaque fois nos cœurs soient réchauffés. Et on peut arriver dans une réunion en état d'hiver et en ressortir avec l'été, parce que la parole de Dieu aura réchauffé nos cœurs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Alors quand ça brûle à nouveau, il n'y a pas trop de réunions. Ils lâchent l'auberge et ils font le chemin inverse, 11 ou 12 kilomètres, la nuit, pour retrouver les frères. Parce que quand le cœur brûle, on retrouve la communion fraternelle. Quand le cœur brûle, on retrouve le zèle. Quand le cœur est réchauffé, on retrouve la joie. Et là, ils arrivent. Et ils disent, mais on a vu le Seigneur. Et les autres disent, nous aussi, hein, on l'a vu. Il est apparu à Simon. C'est curieux, mais quand on a le même Seigneur, il n'y a pas de divergence dans la révélation. C'est la même expérience, c'est le même chemin, parce que c'est le même Christ. Et quel bonheur dans cette réunion. Le Seigneur était venu dans leur hiver et il les a ramenés dans son été à lui. Le chemin de la résurrection. Le chemin de la grâce. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a dans notre expérience chrétienne un cycle inévitable, inévitable. Parce qu'il y a un cycle des saisons dans la nature. Dans quelques jours, et ce sera très court, nous allons basculer en hiver, à partir du 21 décembre. Puis ce sera le printemps, si Jésus n'est pas revenu. Puis l'été, puis l'automne, puis à nouveau l'hiver. Il y a un cycle. Il y a un cycle dans nos journées. Je l'ai dit, nous sommes le jour, dans quelques heures la nuit. Demain matin, nous allons nous retrouver, ce sera le jour. Et nous ne changerons rien à cela. C'est un cycle divin. Le livre de la Genèse dit, tant que la terre subsistera, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est un cycle. Mais Dieu est fidèle à sa parole pour ces cycles de la nature. Et il sera fidèle dans ses relations avec nous, dans le cycle de notre vie chrétienne. Ce ne sera pas toujours l'été pour toi, mais ce ne sera pas toujours l'hiver non plus. Il y aura des cycles où Dieu permettra des temps difficiles, puis des temps de grâce, puis à nouveau des temps difficiles, puis à nouveau des temps de grâce. Ça fait partie de l'école de Dieu. Mais Dieu est fidèle dans ces cycles-là. Je voudrais que nous retenions au moins ça cet après-midi. Le jour et la nuit sont à Dieu. Quand Dieu permet le jour pour moi, il est avec moi. Et quand Dieu permet la nuit pour moi, il est avec moi. Les nuits que nous traversons ne sont jamais des temps de confort. Ce ne sont jamais des heures agréables. Mais il faut nous consoler dans le fait que le Seigneur connaît notre chemin. Il l'a tracé, il le permet et il nous soutiendra. Et il en est ainsi de nos hivers. Lorsque le Seigneur permet sur ta vie les rafales de l'adversité, quand Dieu permet les gelées sur ta vie spirituelle qui viennent geler les bourgeons de ton attente, et tu te dis, mais quand est-ce que je vais en sortir? Quand le Seigneur permet qu'une gelée blanche, froide, glaciale, recouvre ce que j'appellerais cet après-midi les prairies de ta joie, quand plus rien ne va, quand la joie s'en va et que tu pleures d'une façon légitime. Quand Dieu a permis, ou quand il va permettre, les pertes, la croix, la maladie, la pauvreté et mille autres choses, dans ces moments-là, il sera avec toi. À Dieu est le jour, à Dieu est la nuit. Mais alors, il y a cette question, mais Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi est-ce qu'il permet des nuits? Oh, j'ai plein de réponses là-dessus. Dieu permet des nuits pour nous éprouver. Dieu permet des nuits pour tester notre cœur. Dieu permet des nuits pour sonder les profondeurs et les raisons de notre attachement à lui. Je vous parlerai ce soir de Job. Mais est-ce que nous sommes attachés à notre Dieu pour ce qu'il nous donne? Ou est-ce que nous sommes attachés à lui pour lui? Est-ce que si Dieu coupait tous les robinets du ciel et cesse de nous gâter, de pourvoir à nos besoins et de nous bénir, est-ce que nous resterions attachés à lui? Est-ce que nous l'aimerions de la même façon? Est-ce que nous continuerions à le servir? C'est ça qu'il veut savoir. Le suivre quand il te bénit, quand tu as dans ta petite réserve 2 ou 3 bouteilles de champagne et de Pessac Léognan, ça roule. Mais le jour où tu n'as plus qu'un morceau de pain sec avec un verre d'eau, est-ce que tu rends grâce de la même façon? Alors Dieu permet des nuits. Il permet les rafales de vent froid, la gelée. Il permet la morsure des vents violents. Et il se dit, là, je vais le tester, l'attester. Pour quelle raison est-ce qu'elle m'aime? Pour quelle raison est-ce qu'il s'attache à moi? Pourquoi est-ce qu'il vient aux réunions? C'est ça que Dieu veut savoir. Il permet des nuits pour nous enseigner, parce que dans les nuits, il nous enseigne. Il permet des nuits pour nous instruire. Je peux vous dire que j'ai beaucoup plus appris du Seigneur dans les nuits que dans les jours. Oh oui, oh oui. Dieu permet des nuits pour nous corriger. Dieu permet des nuits pour nous éduquer. Dieu permet des nuits pour nous garder de l'orgueil. Dieu permet des nuits pour nous humilier. Dieu permet aussi des nuits pour fortifier notre foi, pour nous conduire à dépendre de lui et à ne compter que sur lui. Et puis ne l'oublions pas, Dieu permet des nuits pour se glorifier lui par son soutien, pour se glorifier par sa grâce, pour se glorifier par ses interventions puissantes. Et puis je vais vous dire une chose, on en parlera ce soir et demain, tout ce qui peut se passer la nuit tourne au plus haut bien de ses enfants. Parce qu'Asaph, inspiré par le Saint-Esprit, a dit « Adieu le jour, mais adieu la nuit ». Je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur ce texte d'Ésaïe. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. « Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. » C'est Dieu qui parle. « Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Dieu a le contrôle de tout. Avez-vous remarqué dans ce texte, je forme, je crée, je donne, je crée, je fais. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour une autre volonté souveraine, surtout pas celle de Satan. Dieu a le contrôle de tout. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que cet après-midi, il faut serrer dans notre cœur. Il ne faut pas permettre que dans le territoire de notre foi, nous permettions un millimètre d'infiltration satanique pour penser qu'à un moment donné, le diable peut être maître de la situation. Jamais, au grand jamais. À Dieu est le jour et à Dieu est la nuit. Et ce n'est pas parce que cet après-midi, nous sommes dans la nuit de l'épreuve que c'est le diable qui mène le bal. Dieu reste celui qui a le contrôle de tout. Gloire au Seigneur. Alors l'attitude de Dieu envers nous dans la nuit. Eh bien, j'aime ce texte de la Bible qui dit que Dieu était sur son trône lors du déluge. Il restait sur le trône. Il avait le contrôle de tout. Je voudrais vous dire que alors que la nuit va venir dans quelques heures, Dieu ne va pas quitter son trône parce que le soleil se couche et que la nuit vient. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Quand le soleil se couche et que Dieu permet la nuit, il reste sur son trône. Charles Spurgeon, qui a été un prédicateur remarquable des siècles passés en Angleterre, au point qu'il a été appelé le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon a écrit « Ses yeux veillent sur nous comme des étoiles ». Il s'en passe des choses la nuit. Toutes les activités de la nuit se trouvent dans le pouvoir de Dieu. Alors il y a de bonnes choses, par exemple à certaines saisons, c'est la nuit que la rosée se dépose sur la terre. C'est la nuit qu'il y a l'influence de la lune, parce qu'il y a de bonnes influences de la lune pour la terre. Mais c'est aussi la nuit qu'il y a les alarmes, les dangers, la malveillance, la solitude. Dieu reste au contrôle de tout. Il y a quelqu'un dans le ciel n'est pas vide. Quel autre au ciel ai-je que toi? Dieu reste aux commandes. Un Dieu qui me dit dans le psaume 121, la lune ne te frappera point pendant la nuit. Alors s'il est vrai que le soleil apporte de précieux fruits le jour, il est tout aussi vrai que la lune apporte de précieux fruits la nuit. Et ça, c'est vrai spirituellement pour nous dans nos hivers. Dieu est le seul sage. Ne pensons pas que seul l'été peut nous bénir, je parle sur le plan spirituel. Savez-vous que les gelées blanches tuent les insectes nuisibles? Ce n'est pas avec l'été que Dieu va détruire les petits insectes nuisibles de ta vie. Bon, une petite amertume comme ça, qui fait sa petite galerie pour manger les petites plantes qui pourtant auraient pu apporter de la vie et des fruits. Alors Dieu permet une bonne gelée pour tuer les insectes nuisibles. Les gelées viennent enrayer les maladies contagieuses parce que dans le froid, il y a une action contre les microbes. Ben Dieu soit béni pour ça. Quand Dieu nous délivre de nos petites contagions, je ne sais pas, moi par exemple, les ragots, les rumeurs, le mécontentement, le découragement, pas à Cestas, mais ailleurs. Alors Dieu permet quelques gelées. Savez-vous que les gelées brisent les mottes de terre? Quand c'est vraiment dur, eh bien la gelée arrive à casser ça. Et les gelées préparent le terrain. Et ce n'est pas toujours l'été que Dieu brise nos cœurs. Ce n'est pas toujours par une bénédiction. C'est par une bonne épreuve qui nous brise, qui nous amène à pleurer. Là, on sent que... D'ailleurs, on ne s'en doutait pas. On ne le savait même pas, mais il y avait encore des mottes dures. Et le Seigneur est en train de faire exploser ça. Dans le cœur, il prépare le terrain. Et puis, il vient avec son feu dans nos hivers. Comme sur le chemin d'Emmaüs. Il vient avec la flamme de sa parole. Il vient avec sa chaleur, sa présence, son esprit. Il vient avec les vêtements chauds de ses promesses. Alors il faut que nous travaillions dans notre hiver actuel. Parce que j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alors quand c'est le froid, ne soyons pas paresseux, mais disons « Seigneur, c'est un moment extrêmement difficile, mais je veux continuer à être actif, zélé, je veux continuer à être à ma place, dans mon service, dans mon attachement, dans ma consécration, je ne veux me laisser entamer par rien, parce qu'il y a probablement dans cet hiver-là un temps où tu attends que je travaille en vue d'une récolte. Et si je manque le temps de l'hiver, je manquerai le temps de la moisson. Il faut que nous restions dans le programme de Dieu et dans les saisons de Dieu. Si Dieu permet l'hiver, il y a quelque chose de bon pour nous en vue de l'avenir. Et justement, je vais y venir. Qui connaît les hivers? Ah, je vais vous encourager. Tous les enfants de Dieu, vous avez bien fait de venir à la réunion. Mon frère, ma sœur, si tout va bien pour toi, prends courage, ça va bientôt aller mal. C'est inévitable, c'est inévitable. Tous les enfants de Dieu connaissent ça. Résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les nuits, les hivers, le peuple de Dieu connaît cela sur toute la terre. Il y a une nuée de témoins dans les Écritures, une nuée de témoins. C'est pourquoi l'Écriture dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la consolation, la patience que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je lis ma Bible et je me dis, oh là 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 là, il en a subi celui-là et il en est sorti. Alors, ça me donne de la consolation. Il n'y a pas que moi. Ça me donne de la patience. Ça a duré pour lui, mais il a fini par s'en sortir. Alors moi, j'attends, Seigneur. Et dans cette patience, cette consolation que procure la Bible, il y a une espérance. Parce que je me dis, il s'en est sorti. Alors je m'en sortirai. Il était beau, ce petit... ce petit jeune homme de 17 ans. Il était le chouchou du papa, mais c'était le chouchou du Seigneur. Et Dieu lui a donné des révélations, il était un petit peu vantard. Il aurait mieux fait de garder ça pour lui, il a parlé à ses frères, j'ai eu un songe. Puis une deuxième fois, j'ai eu un songe. Puis effectivement, dans le songe, c'était lui à l'honneur, puis les frères qui s'abaissaient devant lui. Alors ils ont fait une assemblée, un huis clos. Ils ont examiné le dossier de Joseph. Ils ont dit, celui-là, ce frère-là, on n'en peut plus, quoi. Il faut lui faire sa peau. Et le jour favorable est arrivé. Le Seigneur a ses jours favorables, le diable aussi. Envoyé par le Père pour prendre des nouvelles de ses frères, ils l'ont vu arriver. Et ils ont dit, maintenant, on y va. Joseph a connu l'hiver de la jalousie, l'hiver de l'envie, l'hiver du complot, puis l'hiver du mensonge, des cabales, l'hiver de la haine, l'hiver de la méchanceté, l'hiver de la cruauté, l'hiver du rejet. Ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont mis dans une citerne. Et puis, ils l'ont vendu à des Ismaélites. Et l'hiver de Joseph s'est poursuivi en Égypte. Là, il a une petite bouffée d'air frais. Dieu permet une toute petite bouffée d'air frais. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ce n'est pas fini, l'hiver de Joseph. Il n'est pas allé assez à la moulinette. Et tant qu'on n'est pas assez allé à la moulinette, on ira. Parce que Dieu, à la suite dans les idées, ce n'est pas lui qui va caler. Il ne travaille qu'avec des hommes et des femmes brisés. Il ne travaille qu'avec des hommes et des femmes brisés. Une église qui localement vit un réveil, c'est une église formée d'hommes et de femmes qui ne sont pas là pour se faire valoir, mais qui sont brisés. Qui sont brisés. Alors Dieu permet les hivers. Il va être en honneur dans la maison de Potiphar qui lui fait confiance. Tout passe entre ses mains, tout prospère, mais ça n'est pas terminé. Dieu permet l'hiver de la tentation, l'hiver de la calomnie, l'hiver du harcèlement, l'hiver des cabales encore, l'hiver d'un jugement inique, il se retrouve en prison injustement. Dieu permet une petite bouffée d'air frais là encore, et par petites touches comme ça. Il va rendre service à deux officiers de Pharaon qui ont des songes, il leur donne l'explication. Puis juste avant qu'il ferme la porte de la prison, m'oubliez pas les gars, m'oubliez pas parce que je suis là injustement. Pas de souci Joseph, pas de souci, tu peux compter sur nous. À peine la porte de la prison fermée, ils l'ont oublié. Saint oubli de Dieu. Qui dans le PC là-haut de ces hommes-là, je sais pas, moi il y a eu un bug, ça a zappé. Ils ont oublié Joseph, 2 ans. 2 ans encore. Où Dieu fait que l'homme descend, c'est l'hiver. Et quand là-haut, Dieu a dit, ça y est, il est prêt, d'un seul coup, on passe de l'hiver à l'été. De la nuit au jour, parce qu'à lui est le jour, à lui est la nuit. Il a établi l'hiver, mais il a établi l'été. Alors il se passe quelque chose, vous connaissez l'histoire biblique, dans le palais de Pharaon, et subitement, boum, tout bascule. Et quand le mur de l'Europe de l'Est tombe, ça bascule en 48 heures. Parce qu'on a l'impression dans l'histoire que tout s'arrête comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Puis à un moment donné, Dieu dit, on fait une étape de plus dans l'histoire. Et boum, tout s'écroule et ça va très vite. Et ça va aller très vite pour Joseph, parce que ça a été long avant. Pour que ça aille vite, à un moment donné, il faut que ça soit très long avant. Alors il y en a qui disent, Pharaon a eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Tiens, mon ordinateur se remet en route. Il s'est reconnecté. Je me souviens, il y a un petit gars là, paye pas de mine en prison, avec les chansons, avec le panetier, on a eu un songe tous les deux. Et ce petit gars-là, il nous a donné l'explication du songe, c'est arrivé comme ça. Le panetier est mort et moi je vis. Pharaon a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Amenez-le. Alors tout de suite, ça change. Joseph se rase, il se lave, on change ses vêtements, il arrive. Tu expliques les songes? Personne dans mon royaume n'explique les songes, et toi tu les expliques. Un gars qui n'a pas connu l'hiver.
Ben bien sûr.
Les pasteurs, ils valent rien. L'ancienne génération, des ringards. Nous, les nouveaux candidats, on arrive. Et vous allez voir avec nous la musique, le chant, le réveil. Eh ben, tu vas pas aller loin, mon gars. T'as besoin d'un long hiver. Voilà comment les gars qui connaissent pas l'hiver arrivent. Ah, mais t'as eu raison de me faire venir. Parce qu'effectivement, le seul qui peut expliquer, c'est moi. Il y en a qu'un, un bon, c'est moi. Il y en a qu'un qui est béni. Il y en a qu'un qui a la vocation, la révélation. L'homme qui est passé par l'hiver, il arrive et il s'efface derrière son Seigneur. Moi, j'explique rien. Moi, je peux rien. C'est à Dieu qu'appartiennent les révélations et les explications. Enfin, raconte-moi ça quand même. Alors, Pharaon raconte le songe. Lui, il donne l'explication. Non, même pas. C'est Joseph qui va donner et le songe et l'explication. Et là, allez, il faut qu'il aille derrière mon char et que quand il va passer derrière moi, tout le monde crie à genoux. Il arrive premier ministre d'Égypte. Parce qu'avec ce petit gars qui a connu ce si long hiver, Dieu va sauver l'Égypte. Dieu va sauver l'embryon d'Israël. Dieu va tout préparer pour le berceau du Messie. Rien que ça. Rien que ça. Et quand vous lisez la vieille prophétie de Jacob sur ses 12 fils et que vous arrivez à Joseph, les meilleures productions, les meilleures bénédictions, d'en haut, d'en bas, les meilleurs, ça arrive de partout pour lui. L'homme qui a connu l'hiver et ensuite l'été, ne te décourage pas mon frère. Dans l'hiver, Dieu est en train de préparer quelque chose. Ne te décourage pas ma sœur dans ton hiver. Tu ne seras jamais première ministre de France derrière François Hollande. Mais une bonne servante dans le royaume de Dieu, c'est meilleur. Pensez à David. Alors David, c'est une succession d'hiver et d'été. D'abord, ouais, je dirais bon, l'automne. Allez, pas l'hiver, l'automne. Réunion de famille, on va oindre le futur roi. On rassemble les 7 fils d'Isaïe. Lui, le 8e, le petit là, il est bon à garder les pourceaux. On l'invite même pas à la réunion de famille. C'est la quantité négligeable. C'est une espèce d'automne, quoi. L'homme dans la famille qui ne s'intéresse pas trop à lui. Justement, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors il est loin, et aussitôt ça monte, promotion. Il arrive, musicien attitré du roi, jouer de l'harpe sur le parquet ciré du palais, devant le roi Saül. Le temps passe, arrive la bataille contre Goliath. Tout le monde fuit. Saül, le roi, là, où il est? Il n'ose pas y aller. David dit, moi, je vais y aller. Mais ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Lui, il arrive là avec ses dieux, ses armes, mais moi, je descends contre lui au nom de l'Éternel des armées. Et vous savez très bien que David, c'est le descendant des gitans. Il était beau. Il avait une belle voix. Habile dans la musique. Vivait dans les champs et il lançait des pierres. Ben oui. Alors, une seule pierre. Voilà. Et là, l'été. Le peuple l'acclame. Les jeunes filles sont là avec des yeux qui brille. Oh, ce gars-là, c'est celui-là qu'il me faut, quoi. C'est que les filles d'Israël, elles étaient là quand David est passé. On a chanté. Allez, on va faire un cantique. Dieu a donné les 1000 à Saül, les 10 000 à David. Et l'autre, il entend ça, lui. Ah oui, c'est à lui qu'on donne les 10 000 alors que c'est moi le roi. Et Dieu dit, il a connu le succès, mais un petit peu trop vert pour le succès. Le moment de l'hiver va arriver. La haine, le désir de Saül de tuer David, la jalousie, l'envie. Et là, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais c'est tout l'hiver qui arrive. David va être dépouillé de tout. Son service de responsabilité, ses amis, sa femme, son ami intime, il perd tout au fur et à mesure. Il perd l'appui de Saül parce qu'il devra quitter Rama. Il perd l'appui d'Achimélec, la sacrificature, parce que là, il raconte une histoire et ça se termine mal pour Achimélec. Il va perdre l'appui de Jonathan. Il perd tout parce que Dieu l'attend dans une caverne où il n'y a plus personne. Adullam. C'est là que Dieu l'attend. Là où il n'y a plus rien. Là où il n'y a plus personne. Au fond de l'hiver. Parce qu'un jour, il va être le roi selon le cœur de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit va écrire dans la première ligne de mon évangile, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, pas fils de Saül, pas fils de Salomon, fils de David. Il y a quelque chose de messianique, il y a quelque chose du Christ à venir dans sa vie, mais pour ça, il faut l'hiver le plus froid pour qu'un jour il connaisse l'été avec Dieu. Le temps me manque pour vous parler de Daniel. Le temps me manque pour vous parler d'Anne, la maman de Samuel, sa rivale, tous les ans, a un nouveau poupon. Alors pour les maris, parfois, le cri d'un bébé la nuit, mais l'autre, Pénina, t'as vu ? T'as rien, toi ? Regarde, un de plus ! Et dans le cœur d'Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était terrible. C'était quoi ? L'hiver, préparant un été. La sacrificature, excusez-moi, mais vous me connaissez un petit peu maintenant, était en train de pourrir jusqu'à la racine. Élie avait dérapé, incapable de voir. Une sacrificature sans discernement, c'est plus une sacrificature. Les fils étaient pourris, il y avait de la débauche en haut lieu. Ce système-là était en train de pourrir sur pied. Dieu était en train de remplacer la sacrificature par un courant prophétique. C'est la prophétie qui allait remplacer la sacrificature pendant un temps. Après Élie, il y aurait un autre homme faisant entendre une voix prophétique. Mais il n'y avait qu'à choisir dans la maternité de Pénina. Ah non, non, on ne va pas chercher le courant prophétique qui sort d'un saint comme celui de Pénina. Il faut un homme qui sorte de l'hiver pour connaître l'été. Alors Anne est là. Tous les ans, c'est le couteau dans la plaie. Et un jour, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. C'est là que Dieu l'attend. Dieu lui a fixé rendez-vous dans le temple, seul à seul avec elle. Et écoutez-la, l'amertume dans l'âme. Elle n'en peut plus, on n'entend pas le son de sa voix, elle ne fait que remuer les lèvres. Et l'autre, le vieux sacrificateur, il prend ça pour de l'ivresse, pauvre type, qui n'est même plus capable de sentir la détresse d'une femme d'Israël. Fais passer ton vin. Mais non, je ne fais pas passer mon vin, je ne suis pas ivre, j'en peux plus, je souffre. Et je viens de demander à Dieu qu'il me donne un fils. Et vous savez ce que Dieu attendait dans l'hiver ? C'est que le fils, ce soit pas pour elle, ce soit pour Dieu. C'est ça que Dieu attendait. L'autre, la maternité, c'était à elle. Il y a lui, il y a David, il y a Élie, tout ça, c'est à moi, regardez, mes enfants. Ben oui, mais il n'y en a aucun qui fera quelque chose. Mais l'enfant qui sort de l'hiver, c'est le futur prophète. C'est le nouveau système après celui qui vient de s'effondrer. Alors elle a dit, écoute, si tu me donnes un fils, ça ne sera pas pour moi, ce sera pour toi. Elle n'a pas osé dire, je te le donne, elle a dit, je te le prête pour toute sa vie. Peut-être ça l'a rassuré de dire ça, mais en tout cas, Samuel a été donné au Seigneur. Voyez-vous, derrière nos hivers, Dieu a des plans. Vous parlerez de Job ce soir. Vous pourrez parler du Nouveau Testament. Paul, nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu, au milieu de la gloire, l'été. Le jour, et de l'ignominie, l'hiver, la nuit. Au milieu de la bonne réputation, l'été, le jour. Au milieu de la mauvaise réputation, l'hiver, la nuit. Le plus grand exemple, comme toujours, Jésus. Le jour, l'été, regardez-le, des guérisons à profusion, des miracles, des délivrances, des foules qui viennent de partout l'écouter, parfois au point de se fouler les uns les autres. L'été du jour des rameaux, Hosanna, sauve de grâce, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'été, le jour, mais regardez la nuit de Gethsémané. seul affoulé au pressoir à huile. Il lutte contre l'enfer. Seul, même les meilleurs du groupe s'endorment de tristesse. Et il lutte jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Personne, je crois, sur la terre n'évaluera jamais un jour ce qu'a été la lutte de Gethsémané pour ta vie et pour ma vie. Regarde-le dans les ténèbres de Golgotha. Regarde-le dans la longue nuit du sépulcre. C'est la nuit, c'est l'hiver pour Jésus. Mais regarde le jour de Pâques, l'été de la résurrection qui continue toujours. Qui continue toujours. Nos nuits, la nuit de l'adversité, la nuit de l'opposition, la nuit de la difficulté. On pourrait parler des disciples dans la tempête, la nuit, après un jour merveilleux d'enseignement de Jésus et de la multiplication des pains, et maintenant ils sont dans leur nuit, c'est une espèce d'hiver spirituel, face au vent contraire, là, seul à se démener, après un jour aussi béni, et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a demandé qu'on traverse. Il n'est pas si loin que ça. D'où il est, il doit bien voir la tempête. Oui, il la voit. Et il les laisse mijoter tranquillement. Il y a 4 veilles dans la nuit. Va pas venir à la première, ni même à la deuxième, ni même à la troisième. Il va arriver à la 4e. Le Seigneur n'est jamais en retard, mais regardez bien, il est rarement en avance. Il y a toujours une école où il vient au meilleur moment. Les disciples ont dépensé toute leur énergie, ils savent qu'à moins que quelque chose de surnaturel se passe, ils n'avanceront plus. Alors il arrive, mais il arrive comme le je suis. Il arrive comme le Dieu fait homme. Il marche sur l'eau. Il se dit, c'est pas possible, ça on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fantôme. Il voit Jésus comme ils ne l'ont jamais vu, dans une dimension qu'ils ne connaissent pas. C'est ça aussi nos hivers, apprendre à connaître Jésus comme ils ne le connaissaient pas avant. Il panique, il pousse des cris. Et lui, il dit, rassurez-vous, je suis. Il ne dit pas « c'est moi », il dit « je suis ». C'est comme le « je suis » de l'Exode 3. Il arrive comme Dieu pour les secourir à la 4e veille de la nuit. Et là, la barque arrive aussitôt à bon port. Jésus les secourt. Dieu contrôle la nuit de l'affliction. Elle est soumise à sa volonté, tout autant que le jour de la félicité. Et quand Jésus vient à notre secours, quelle révélation et quelle expérience! On pourrait parler de la nuit de la persécution, de la déception, de l'incompréhension. Je vous parlerai demain matin de la nuit de Paul et de Silas dans la prison de Philippe. Parce que le thème de mon message demain matin, si vous voulez bien venir, c'est Dieu donne des cantiques dans la nuit. Dieu donne des cantiques dans la nuit. Alors, je vais terminer par ce que j'ai dit hier soir. Ce petit refrain dans la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, puis le deuxième, puis le troisième, et je vous ai dit que le matin finit par triompher. Je vais terminer avec ça. Dans l'Apocalypse, il y a 2 trônes qui s'affrontent et 2 royaumes. Il y a le royaume et le trône de la bête, et il y a le trône et le royaume de Dieu. Et au chapitre 16e de l'Apocalypse, je vois un ange qui verse ce que la Bible appelle la 5e coupe sur la terre. Et quand l'ange de Dieu verse la 5e coupe sur la terre, le trône de la bête et son royaume sont couverts de ténèbres. Et les hommes se mordent la langue de douleur. Ça, c'est ce qui se passe quand Dieu intervient au niveau de Satan et de ses hordes de démons. Mais à l'avant-dernier chapitre de la Bible, et au dernier chapitre de la Bible, je lis ceci. La ville, la nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et dans le dernier chapitre, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Nous allons vers un jour, un été, qui ne finiront jamais. Alors je te dis, mon frère, ma sœur, courage. À lui est le jour, à lui est la nuit, mais Dieu triomphera toujours. Et nous triompherons en lui, et nous triompherons avec lui. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur, et prenez courage parce que ce soir, je vais vous parler de Dieu qui fixe des limites à nos épreuves. Il fixe des limites. Il y a un moment, Dieu dit stop, ça ne va pas aller plus loin. Dieu fixe des limites, et Dieu soit béni pour ça. On va prier ensemble. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu restes souverain, de ce que tu as le contrôle de tout. Et nous sommes humiliés de nos paniques, humiliés de nos angoisses, humiliés de nos désespoirs, humiliés de nos révoltes, de nos murmures, de nos perplexités, comme nous aurions besoin souvent de dormir dans la barque avec toi. Comme nous aurions besoin d'apprendre à te faire connaître nos besoins vraiment par des prières et des supplications avec des remerciements pour que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je te prie d'encourager mes frères et mes sœurs par ces méditations. Tu connais le but de nos cœurs, Seigneur, en parlant ainsi. Je prie pour ceux et celles qui sont en train de connaître la nuit, qui sont en train de connaître l'hiver, que la foi leur permette de réaliser que tu as le contrôle de tout, que c'est toi qui as établi l'été et l'hiver, et qu'à toi sont le jour et la nuit, qu'ils puissent demeurer confiants, sereins, rassurés, mettant leurs mains dans ta main, mettons leurs pas dans l'empreinte de tes pas, Seigneur, qu'ils regardent à toi au-dessus des nuages de l'adversité. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de tous. Et nous te prions pour que le Saint-Esprit nous entraîne à te faire confiance. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen, amen.
Gloire au Seigneur, hein?